dans le prophète Jérémie, le chapitre 2, et le verset 13. Il est écrit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Ce matin, il y a quelqu'un qui a prié, qui venait boire à la source d'eau vive. Ça m'a fou. « Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ce matin, j'ai un désir dans mon cœur. C'est d'élever le nom de Jésus, de sanctifier le Père Céleste et d'honorer le Saint-Esprit ce matin. Élever, sanctifier, honorer. Je sais bien que de moi-même, je ne veux rien faire pour que Jésus soit dans une position plus élevée puisqu'il est au sommet, puisqu'il est déjà dans le ciel. Et la Bible nous dit qu'il est élevé au-dessus de tout, de toute domination, de toute autorité, sur la terre, dans le ciel, tout. Il est élevé au-dessus de tout. Et je sais que de moi-même, je ne peux rien faire pour ajouter ne serait-ce que toute petite once à la sainteté de Dieu. Il est parfaitement saint, totalement saint. Je sais de moi-même, je ne peux rien faire pour, comment dire, pour ajouter un millième à l'honneur qui est dû à l'Esprit Saint. Amen. Et pourtant, ce matin, dans ma prédication, dans ma parole, dans mes paroles, dans mon cœur, je veux élever, sanctifier et honorer le Seigneur. Alléluia, je veux le faire de toute mon âme, de tout mon cœur. Nous avons un Père, un Dieu, le Père exceptionnel, unique. Nous avons un Fils, Jésus, exceptionnel, unique. Nous avons un Esprit Saint, un Saint-Esprit, exceptionnel et unique. Et rien de ce qui est dit et fait sur cette terre, quels que soient les événements, rien, absolument rien ne peut changer ce Dieu exceptionnel que nous connaissons, qui nous a rachetés, sauvés et qui nous destine à la plus glorieuse des espérances. Nul ne peut nous ravir de sa main. Et comme je l'ai lu tout à l'heure dans Romains 8, qui peut nous condamner ? C'est lui qui est le juge. Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on imagine un petit peu, qu'on revienne au texte de tout à l'heure, Jérémie 2,13, et qu'on imagine ce que Dieu doit ressentir lorsqu'il voit ses propres enfants rachetés au prix de son sang, au prix du sang de Christ, se détourner pour croire à autre chose, s'abreuver à d'autres sources, se creuser des citernes où l'eau va stagner, des citernes crevassées qui sont incapables de retenir l'eau. Chez moi, j'ai une citerne, une belle citerne. Elle est juste à côté du canal qui passe. Le canal se remplit une fois par semaine. Et une fois par semaine, l'eau se déverse dans ma citerne. Et comme ça, j'ai de quoi arroser pendant toute la semaine. Vous voyez, c'est pratique, hein? Malheureusement, elle est fissurée. Et ça coule sans arrêt. Dans mon abri à bois, je vois couler de l'eau. Et je sais que ça vient de la citerne. Et tout dans nos vies, il y a des citernes crevassées, dangereuses, qui ne laissent tout passer. Et c'est un péril, cette eau qui croupit, cette eau que le monde nous propose, c'est un péril pour les enfants de Dieu. Et il y a deux façons de lutter contre ce péril. Soit c'est de décrier, d'analyser la saleté de l'eau, de passer du temps à prévenir sur cette citerne. Soit c'est de vous décrire la pureté de l'eau qui vient de là-haut. Soit c'est de se tourner vers Jésus, vers le Père, vers le Saint-Esprit. et de nous donner envie de boire à cette eau. Et c'est la deuxième option que je prends ce matin. J'ai choisi de parler de mon Dieu. Et vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire de celui qui m'a aimé le premier. Moi, il est venu me le chercher dans la boue de mon péché. Ma vie n'était pas belle. Et il m'a aimé le premier. Il m'a attiré à lui par ses cordages d'amour. C'est l'image de Jérémie qui est dans cette fosse, dans cette citerne enfoncée dans la boue et à qui, eh bien, on va jeter ses cordages pour le tirer de la boue. Il avait tout, mais absolument tout préparé pour sauver ma vie. Il n'a rien laissé au hasard. Lorsque je regarde en arrière, je m'aperçois de ce plan divin pour me sauver. Et rien de ce qui m'est arrivé avant n'a pu empêcher Dieu de me saisir dans son immense amour. Et cette expérience que j'ai faite, vous l'avez fait aussi. Amen. Rien ne peut empêcher Christ de vous saisir dans son amour. Il a béni ma vie. Il n'a rien laissé au hasard. Et il ne laisse rien au hasard dans notre vie. Et non, le hasard n'a pas la place avec la bénédiction de Dieu. Elle ne se répand pas au hasard. Elle est pour ses enfants. Pour ses enfants. Il a béni ma vie. Il a béni mon travail. Il a béni mon foyer. Il a béni mes enfants malgré bien les difficultés. Il a béni mon église. Il a béni ma vie. Et il veut bénir votre vie aussi. Alléluia. On a beaucoup de choses à dire de Dieu. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, nous dit ce cantique. Et tu verras. Oh oui, on verra combien il est bon. J'ai souvent été consolé, guéri, délivré et toujours aimé d'un amour éternel, même lorsque je me suis éloigné. Il est la rencontre de ma vie. Il est la chance de ma vie. Il est l'espérance de ma vie. Il est la puissance de ma vie. Alléluia! Il est mon Dieu. Et je fléchis les genoux devant lui. Je confesse que je suis tout petit devant lui. Je confesse même que je suis un homme pécheur. Mais Dieu me fait grâce. Il est mon Dieu. J'ai rencontré des hommes exceptionnels. Des pasteurs qui avaient un ministère international. Un ministère international. Des missionnaires qui ont vu des réveils puissants. J'ai rencontré des femmes qui avaient des ministères de prière, des ministères de révélation, des dons extraordinaires. J'étais impressionné devant eux. C'était vraiment des hommes et des frères d'exception, d'exception. Mais ici et maintenant, je reconnais que c'est le Dieu d'exception qui a le plus marqué ma vie. Je reconnais que c'est lui qui a le plus impressionné mon âme. Et je reconnais que cette impression, cette marque qu'il a posée sur moi est une marque exceptionnelle. Et je veux ce matin lui apporter tout mon respect et mon adoration. Oh, toi, Seigneur, j'apporte tout mon respect et toute mon adoration. Il est la source d'eau vive. Alléluia. Vous connaissez certainement cette histoire de David qui était dans le combat et un camp de Philistins, un campement de Philistins avait investi la ville de Bethléem et occupé cette ville de Bethléem. Et David, devant ses guerriers, a émis un désir. D'un seul coup, il s'est rappelé le goût de l'eau de la citerne de la porte de Bethléem. Ah, ça lui est revenu à la mémoire, le goût de cette eau. J'ai raconté ce matin que j'ai été élevé dans la montagne corse. Et excusez-moi, mais l'eau de la montagne corse n'a pas le même goût que l'eau qui coule dans mon robinet. Excusez-moi, je vous dis, c'est pas la même clarté, c'est pas la même, je ne sais pas. C'est une eau qui est d'ailleurs beaucoup plus acide. Et ici, on a de l'eau calcaire qui bouge tout, d'accord? C'est une eau qui est désaltérée. Ah. Et quand je retourne en Corse, la première chose que je fais, c'est de boire cette eau. Et David a regardé en arrière. Il n'avait pas soif. Et il n'était pas en train de mourir de soif dans le désert. Mais il a regardé en arrière. Il a regardé à sa vie passée. Il a regardé derrière. Il s'est souvenu. Oh, c'était bien quand j'étais à Bethléem. Quand j'allais à la petite lampe boire cette eau de cette citerne-là, à la porte, elle avait un goût particulier. Il était devenu nostalgique. Attention, la nostalgie, le retour en arrière peut être dangereux. Et cela a été pour David. Parce que quand il a émis ce désir, parmi ceux qui écoutaient, il y a eu 3 vaillants guerriers qui ont risqué leur vie pour aller puiser de cette eau au milieu des ennemis et qui lui ont ramené un vase ou une gourde, je ne sais quoi, rempli d'eau de la citerne, hein, au péril de leur vie. Et quand David a vu cela, il s'est rendu compte de son péché, parce que retourner en arrière à ce que le Seigneur nous a délivré, de ce que le Seigneur nous a délivré, revenir vers, avec nostalgie vers les choses du passé, c'est dangereux. Et ce que David a réalisé, il a pris cette eau et il l'a répandue devant Dieu. Il n'a pas voulu la goûter. Il a tourné le dos à son passé. Et nous, nous sommes engagés de ce matin à venir au pied de la croix et à répandre ces choses-là au pied de la croix afin d'être délivrés de notre passé. C'est possible dans le nom de Jésus. Et ça a été pour David l'occasion de se tourner vers Dieu et d'aller chercher de l'eau vive, de se désaltérer à la source dans la prophétie sur le temple d'Ézéchiel, construit sur la montagne. Au milieu de ce temple, il y a un fleuve. Il y a d'abord un ruisseau qui devient un fleuve qui s'écoule. Et lorsque ce fleuve arrive dans la mer morte, les poissons reviennent à la vie. C'est cette eau qui donne la vie que le Seigneur nous promet. Il a regardé en arrière. Mais Dieu l'a béni parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Vous savez, j'ai marqué sur mon papier, Dieu était l'avenir de David. Amen. Dieu était l'avenir de David et Dieu est notre avenir. Alléluia. Dieu est notre avenir. Alléluia. Ce n'est pas le passé qui est notre avenir. Le passé est fini. Dieu, lui, est toujours devant, même s'il était déjà présent dans notre vie, dans le passé. Répandons au pied de la croix tout ce qui pèse, tout ce qui nous reste derrière. Dieu est notre avenir. Oh, le bon comme le mauvais, je laisse tout au pied de la croix. Et je me tourne définitivement vers l'avenir que Dieu m'a construit, m'a préparé. Stop, je ne veux plus d'eau d'ailleurs de citerne de ce monde. Je veux boire de l'eau vive ce matin. Boire de l'eau vive. Dieu nous dit ce matin, je suis une source d'eau pure. À la Samaritaine, Jésus a dit, dans Jean chapitre 4, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Je commence à avoir soif, moi, d'ailleurs, il fait chaud ici. C'est attention, hein, il y a le pasteur alors. Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Mes amis, nous connaissons le don de Dieu. Alléluia. Ah bon? Vous connaissez pas le don de Dieu? Nous connaissons le don de Dieu. Et il avait dit, si tu connaissais, tu lui demanderais à boire. Mais mes amis, ce matin, nous connaissons le don de Dieu. Nous devons aller près de Jésus, lui dire, Seigneur Jésus, donne-moi à boire. Alléluia. Répands ton eau vive dans ma vie, Seigneur. Je te connais. Oh, ce matin, trouve pas les mots pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être même dans mes mots que certains sont maladroits. Certains ne font pas ressortir l'exacte vérité de ma pensée. Oh, comme je voudrais mieux connaître Jésus ce matin, afin de mieux exprimer qui il est. Comme je voudrais mieux connaître Dieu, pour mieux parler de lui. Alléluia. Mais je le connais suffisamment pour oser lui demander, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. J'ai soif, Seigneur, soif de ta présence. Ce cantique, j'aime particulièrement, j'aime encore, j'ai soif de ta présence. Je me rappelle le jeudi soir, combien de fois on me demandait de faire chanter. Et je terminais par ce cantique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ton faiblesse immense, oh, ne lève Dieu sans toi. Alléluia. Amen, vous rappelez ça? J'ai soif de ta présence. Donne-moi à boire. C'est Jésus qui a fait cette promesse. Demande à boire. Et je vais te donner de l'eau vive. Je te donnerai de l'eau vive. Que Dieu répande ce matin cette eau vive sur tous ceux qui le lui demandent. Tous ceux qui lui ont demandé au premier culte, tous ceux qui lui demandent au deuxième culte. Et s'il y avait un troisième culte, que tous soient bénis dans le nom de Jésus. Répands sur moi cette eau vive, Seigneur. Encore une fois, je peux dire que Christ, Jésus, est un homme unique. Plus qu'exceptionnel, unique. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Parfaitement homme, parfaitement Dieu et homme parfait. Seul juste. Je n'ai pas trouvé ce matin un homme qui m'ait autant aimé, autant aidé, autant apporté sur cette terre. Et ce matin, je veux lui apporter tout mon respect et toute mon adoration. Tout mon respect et toute mon adoration. Et puis maintenant, j'aimerais parler de l'Esprit de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif « Vienne !» Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ouh, c'est gratuit! Alléluia! Viens maintenant, le moment de parler de l'Esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de grâce, celui qui nous a fait l'immense honneur, l'immense privilège de venir dans nos cœurs, celui qui n'a pas regardé à ce que nous étions, mais qui a regardé à ce que le Seigneur voulait faire de nous et qui est venu dans notre vie, l'Esprit de Dieu. Il est venu habiter en nous. Il est venu nous parler quand même, bien même nous n'écoutons pas. Il est venu nous enseigner même quand nous ne voulons pas obéir. Il est venu nous corriger même lorsque nous étions en révolte. Il est venu nous conduire même lorsqu'on ne voulait pas lâcher le volant de notre vie. Il est venu sur ma vie. Celui qui nous fait l'immense honneur d'être toujours là, alors que nous l'avons ignoré pendant si longtemps, pendant trop longtemps. Quelle est la dernière fois où vous avez eu une communion avec le Saint-Esprit, une communication avec le Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu a parlé à vos cœurs? Il est pourtant là. C'est un esprit de vie, un esprit de force. C'est lui, nous dit la parole de Dieu, qui produit en nous un fruit merveilleux. Vous connaissez hein, dans Galates 5, 22, si je me rappelle bien. Voilà, je n'ai pas noté. Je plonge là, c'est Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Vous connaissez hein? Alors que nous refusons souvent d'être, comment dire, un arbre qui a été taillé, nous refusons souvent d'être taillé, nous refusons souvent d'étendre nos racines, alors que nous sommes toujours un arbre fragile, nous permet quand même de porter un fruit qui le glorifie, un fruit extraordinaire qu'on ne retrouve pas ailleurs. L'amour, la paix, la patience, vous connaissez les vertus de ce fruit. C'est comme le fruit qui aurait toutes les vitamines, toutes les qualités et aucun défaut. C'est le fruit de l'esprit. Même si nous sommes fragiles, il agit en nous afin que nous puissions produire quand même ce fruit. Alors ce matin, je veux reconnaître que je ne lui ai pas laissé la place qui lui revient. La place qu'il mérite. D'ailleurs, il n'y en a qu'une place. La deuxième? La troisième? La première. Alléluia. La première place. Et je veux lui apporter, ce matin, tout mon respect et toute mon adoration. Amen. Tout mon respect et toute mon adoration. L'esprit et l'épouse disent viens. Quelle communion entre l'esprit de Dieu et les enfants rachetés. C'est nous l'épouse. C'est nous l'épouse. Ils disent la même chose. Ils regardent dans la même direction. Ils ont le même désir dans le cœur. Ils attendent Christ. L'Esprit soupire avec nous. D'ailleurs, il nous aide par des soupirs inexprimables. Lorsque nous sommes à bout de mots, il nous donne de nous exprimer dans des langues nouvelles. Et c'est pour nous une grâce sans cesse renouvelé, chaque matin renouvelé, que de se dire l'Esprit de Dieu est là. Ce matin, comme ce verset de l'Apocalypse, toujours dans ce verset, je veux être en communion avec le Saint-Esprit et dire « Viens, Seigneur Jésus ». Ce matin, je veux dire « J'ai soif » et je veux prendre cette eau gratuitement. Je veux aller puiser cette eau gratuite. Amen.